Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.
Et il est l'heure de retrouver Iwan Le Clèche. Bonjour Iwan.
Bonjour Stéphane.
Aujourd'hui, un vaste sujet, déconcentration et décentralisation.
Alors j'ai même envie de dire trois vastes sujets, parce que déconcentration, c'est un sujet, décentralisation, c'est un sujet, et l'union des deux, c'est aussi un sujet. Alors déjà, la déconcentration, c'est quoi ? Alors la déconcentration, c'est quelque chose qui met fin à de la centration, pour faire simple, littéralement. Hein. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, nous avons un État centralisé, hein, il n'aura échappé à personne, même si de moins en moins, du fait de la décentralisation et de la déconcentration, on est sur un État vraiment centralisé. Un État centralisé, non pas depuis toujours, mais depuis François Ier, notamment au niveau linguistique, et puis depuis le deuxième, qui va être Louis XIV. Donc, on est vraiment sur un héritage ancien, un héritage pré-république, on est sur un héritage royaliste et sur un héritage qui va être aussi celui du monarque de droit divin, avec un mot qui va être important, qui va être dû, le monarque, il n'y en a qu'un seul. Et effectivement, le fait qu'il soit de droit divin dans une société, l'Église catholique pyramidale, fait que de toute façon, il n'a pas de place pour l'un de ses pères. Donc ensuite, on a la Révolution française, on a le système napoléonien, on a l'uniformisation des poids, des mesures, des normes, des règles, la création du code civil, et on a le rapport, comme un peu partout en Europe, à la science qui vient aussi uniformiser le savoir, les pratiques et l'ensemble des règles de fonctionnement, puisque c'est scientifiquement que ceci ou que cela. Donc il ne peut pas y avoir une alternative à n'importe quel fait scientifiquement vrai. Il n'y a pas d'alternative en soi à 2 plus 2 égale 4. Alors pour arriver à 4, il y a plusieurs alternatives, mais 2 plus 2, ça fera toujours 4. Ou alors on plonge dans des débats philosophiques ou scientifiques que je ne suis pas à même de mener et de suivre. Mais en gros, l'idée, c'est ça. On est dans une société de la science, de la raison, pour reprendre la Révolution française, du rationnel, de la gestion, et une société qui va avoir un seul modèle de pensée, finalement, que l'on va retrouver à son apogée sous le règne britannique de Margaret Thatcher. There is no alternative. C'est comme ça et pas autrement. Il n'y a qu'une voie, et la voie, alors, en l'occurrence, elle est descendante, mais elle pourrait être aussi montante. On est dans un système avec une seule tête, une épingle avec une seule pointe. Donc, partant de là, on a deux alternatives, pour le coup, à cette centralisation, même trois. On a celle avec plusieurs centres, mais ce qui revient au même. Hein. Si vous prenez deux États centralisés, effectivement, le global fait qu'il y aura deux centres, mais ce sera juste un monde polycentrique avec deux structures centralisées. Par contre, vous avez deux solutions pour mettre fin à cette centralisation. La première, c'est la déconcentration. Donc la déconcentration, ça va être l'État central, donc l'État, ses ministères, ses administrations, qui va rapprocher du terrain, rapprocher de la proximité, rapprocher du citoyen ou de n'importe quel bénéficiaire des politiques publiques, son action. Alors la déconcentration de l'État, on la voit tous les jours en fait. Quand l'État, la route nationale 12 qui passe à côté, est gérée par la DIRO, Direction Interrégionale des Routes Ouest, c'est un service déconcentré de l'État. La préfecture, c'est un service déconcentré de l'État à l'échelle du département, la sous-préfecture à l'échelle de l'arrondissement ou du chef-lieu d'arrondissement. Et on a tendance à l'oublier, la mairie, le maire, est aussi un service déconcentré de l'État. C'est par exemple le maire qui va avoir le pouvoir de police au niveau de la commune. C'est une compétence de l'État. Donc on est sur finalement l'État qui duplique au plus proche de nous sa politique. Alors à différentes échelles, hein, si vous prenez l'éducation, les facultés dans les métropoles, les lycées dans les villes moyennes, dans les petites villes, les collèges, et dans les quartiers et les communes de campagne, les écoles, vous êtes aussi sur de la déconcentration avec de la proximité en fonction des besoins, en fonction du public. Et la décentralisation, en fait, c'est l'inverse. C'est au lieu d'avoir un centre, vous n'avez plus ce centre. Vous n'avez plus ce centre, vous avez une compétence qui parle de l'État central, donc de l'organisme centralisateur, vers une structure décentralisée. Ça peut être la région, ça peut être le département, ça peut être la commune, ça peut être une structure ad hoc, hein, un établissement public, ça peut être, par exemple, en Île-de-France, la décentralisation des transports, c'est le STIF, c'est un syndicat. À Lyon, c'est le Citral, même principe. Il n'y a pas forcément de hiérarchie, on va dire, entre la décentralisation et le fait que ce soit une collectivité territoriale ou même une collectivité locale. Par contre, cette décentralisation et cette déconcentration vont appliquer pour la vie de tous les jours, pour la vie du citoyen, pour la vie de la nation, différents paramètres. En décentralisant, l'État, finalement, oblige les collectivités locales à agir. Par exemple, si vous prenez le domaine des mobilités, en décentralisant les mobilités, les trains TER, donc une des premières politiques de décentralisation régionale, l'État met au pied du mur les régions en leur disant « vous prenez la compétence et vous agissez » ou en gros « vos lignes ferment ». Alors que sinon, l'État ou la SNCF ne posaient pas la question « les lignes fermées, point barre ». Là, ça reste les régions qui... Alors on va dire en théorie, oui, mais les régions ont d'autres leviers, notamment le levier financier. Les régions financent des aéroports, les régions peuvent financer aussi des voies ferrées. Et les régions peuvent aussi demander plus de décentralisation pour financer plus de voies ferrées ou signer des partenariats avec d'autres acteurs qui seraient, alors à l'époque, le département qui avait la compétence générale, qui donc pouvait tout à fait légalement financer aussi des voies ferrées comme ils finançaient des routes. Et on a un très bon exemple dans les Bouches-du-Rhône, hein, avec la RD13, Régie départementale des transports, qui était l'ancien petit train reconverti en compagnie d'autocar, qui a relancé une ligne de fret dans le secteur du port de Foss et de Marseille. Donc c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui pouvait se faire, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Donc décentralisation, oui, mais à condition d'avoir une volonté. Alors, en matière de TER, c'est volonté d'arrêter ou volonté d'exploiter. La logique actuelle voudrait plutôt qu'il y ait des ouvertures de lignes en masse, des cadencements en masse, des amplitudes horaires de 5h du matin à 23h pour permettre aux gens dans l'agroalimentaire ou au hasard où nous sommes, les techniciens radio, de pouvoir venir sans prendre de voiture, sachant qu'un train vide, en soi, c'est pas forcément grave puisque le train déjà est acheté. Et que le train vide va aussi permettre à cet employé de radio de rentrer à mi-journée dans un train qui sera plein. Donc le train vide va aussi permettre, en ayant un ou deux voyageurs, de remplir un train autrement. Et donc c'est l'ensemble de l'effet réseau qui compte. Donc c'est des questions, en fait, c'est la question de l'ambition qui est posée à travers la décentralisation. La déconcentration, elle, en fait... Et à contre-courant de cette démarche, on va dire, puisque c'est l'État qui impose au local différentes mesures, différentes actions sur un format uniformisé. Par exemple, les programmes scolaires sont les mêmes partout. Ça laisse peu de place à la langue bretonne, là où une éducation régionale décentralisée pourrait imposer du breton à tous. Après, ça pose la question des moyens, ça pose la question des finances, et l'État central est aussi un État redistributeur, et sans maîtrise budgétaire, sans création d'impôts régionaux, puisqu'il s'agirait de ça, hein, concrètement, il n'y a pas possibilité de décentralisation. Pourquoi ? Parce que l'État-nation, du moins en France, dans la conception actuelle, va être celui aussi qui va gérer la crise Covid, va être celui qui va répondre aux urgences des automobilistes qui ont de l'essence à payer. Et effectivement, la région pourrait dire « on baisse les taxes sur l'essence, donc pas besoin d'aider les automobilistes ». Oui, mais en baissant les taxes sur l'essence, il n'y a plus d'argent pour les lycées. Donc on arrive à une politique globale, et on arrive à une politique globale qui, de toute façon, ne prendrait pas en compte certains domaines comme la défense. Et puis on est sur une politique globale qui, de toute façon, s'intègre dans un cadre européen, les règles nationales étant en phase avec les règles européennes, ça ne changerait pas des masses à l'action publique.
Déconcentration et décentralisation ce matin au menu de Terre à Terre. Avec vous, Iwan Le Tlinch, question d'y voir plus clair dans des sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder.
Et comme il y a quelques jours, je vous dis à l'année prochaine, Stéphane.
oui, mais ça, c'est notre histoire.
Mais nous en parlerons jeudi prochain.
Mais je le crains. Merci beaucoup, Iwan Le Tlinch, Terre à Terre, qui revient donc, vous l'aurez compris, jeudi prochain.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.